Radio Kapi. Oh, Kapi.
Merci d'écouter Radio Kapi. Il est 15h à Kinshasa. Voici un nouveau journal. Réaction après le bombardement des camps de déplacés de Mugunga, Lushagala et près de Goma au Nord Kivu. Le HCR et l'UNICEF exigent des belligérants la cessation des hostilités et le respect des principes du droit international. Le ministre de la Communication et Médias parle de l'urgence de redoter les journalistes de leur carte de presse. Objectif visé par Patrick Mouya Katemwe, nettoyer la corporation et éviter des dérapages observés dans la corporation RDC. Notre invité, c'est le responsable des activités de MSF à Roussayo, au Nord Kivu. Docteur Jean-Paul Kassoloa affirme que plus de 20 000 familles déplacées et enfouies la violence ont trouvé refuge dans un nouveau site informel à Roussayo 3, où il manque de tout. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonjour. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Jean-Noël Mokondo. Le HCR et l'UNICEF condamnent fermement les affrontements survenus vendredi après-midi autour des camps de déplacés du quartier Lac Vert, Lushagala, Mugunga et non loin de la ville de Goma. Dans un communiqué conjoint, ces deux agences onusiennes exigent des belligérants le respect des principes du droit international et la cessation des hostilités. Pour en parler, retrouvons à Goma Sifa Maguru.
Dans un communiqué signé à Kinshasa le 3 mai par les responsables du HCR et de l'UNICEF, ces agences indiquent que ces explosions ont provoqué la mort d'au moins 12 personnes déplacées et d'environ 30 blessés, principalement les femmes et les enfants. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cet acte de violence choquant, impitoyable et ignoble qui a coûté la vie à des enfants, des personnes déplacées et leurs hôtes de la manière la plus cruelle qui soit, a déclaré Angèle Dikonge Atangana, représentante du HCR en RDC. Cette tragédie inutile est le résultat des combats qui se rapprochent des zones densement peuplées d'enfants et leurs familles, a déclaré Gant Leti, représentant de l'UNICEF en RDC. Nous demandons que toutes les positions militaires soient immédiatement éloignées des zones civiles et qu'une solution pacifique soit trouvée pour mettre fin à ces conflits. Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Notez qu'à la suite de l'attaque du camp de déplacés de Mugunga près de la ville de Goma au Nord Kivu, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a décidé de regagner le pays ce week-end afin de gérer les derniers développements de la situation qui prévaut ces jours-ci à l'est de la RDC. Pour sa part, sur son compte X, la première ministre Judith Suminwa Tuluka affirme que ces actes terroristes contre des compatriotes innocents sont inhumains et injustifiables. Elle ajoute qu'en tant que nation, la RDC ne cédera pas à la terreur. D'autres réactions avec vous, Alain Rongmouchinj.
L'opposant Martin Fayoulou se demande comment se fait-il que depuis 2 ans, le gouvernement marqué par des scandales financiers et des voyages de prestige, dit-il, laisse des localités entières du Nord Kivu être contrôlées par le M23 sans aucune stratégie de contre-attaque. Cette indifférence ou impuissance du pouvoir en place face à la progression des agresseurs et sa persistance à briser la cohésion nationale frise la complicité, souligne-t-il. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et tous les pays épris de paix et de justice doivent se ranger aux côtés de la RDC pour demander au Rwanda de retirer immédiatement ses troupes de notre pays, indique Martin Fayoulou. De son côté, le prix Nobel Denis Mukwege écrit entre autres, je cite, « Nous appelons la communauté des États à faire respecter les principes de base de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire dans la région des Grands Lacs africains. »
Et puis, les déplacés vivant à l'ouest de la ville de Goma vivent actuellement dans des conditions extrêmement difficiles. Et pour espérer une prise en charge, des milliers de ménages quittent les camps saturés de Roussayo 1 et 2, de Lushagala et de Boulengo pour pouvoir s'installer sur un nouveau site dans les territoires de Nyiragongo. En moins d'un mois, en effet, le nombre de ménages est passé de 7 000 à 23 000 ménages, selon Médecins sans frontières. frontières. Cette organisation internationale vient d'installer un poste de santé, mais les besoins sont immenses, comme l'a constaté Rosalie Zawadi.
Au poste de santé avancé de Roussayo 3, une aide-soignante reçoit un enfant touché par la malnutrition. Des dizaines de mères affluent chaque jour avec leurs enfants malnutris pour une prise en charge. Le docteur Jean-Paul Kassoulois, responsable des activités des MSF dans les sites de Roussayo 3, explique les services offerts aux déplacés.
C'est d'abord la prise en charge des enfants de 0 à 15 ans. Et cette prise en charge des enfants de 0 à 15 ans, ça comprend toutes les maladies. Ça comprend aussi la recherche active de la malnutrition des enfants de 6 mois à 59 mois au niveau des communautés. Minimum depuis cette semaine, nous commençons à recevoir entre 20 à 30 enfants malnutris. Nous avons aussi la prise en charge aussi de santé de la femme.
Médecins sans frontières a récemment distribué du matériel de première nécessité constitué des bâches, couvertures et ustensiles de cuisine à près de 7000 ménages de ces sites. Chaque jour, au moins 100 nouveaux ménages déplacés en situation difficile arrivent ici, selon les membres du comité des déplacés. L'organisation MSF lance un appel urgent à la solidarité pour répondre aux besoins criants de ces familles déplacées et leur offrir un minimum de dignité et d'espoir dans ces conditions de vie extrêmement précaires. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, 8 officiers des FARDC condamnés à la peine de mort et 3 autres acquittés. Telle est la sentence qui a été prononcée vendredi soir par la cour militaire de Goma. Ces officiers étaient poursuivis pour lâcheté et incitation des autres militaires à commettre les actes contraires à la discipline. Un papier de Gabriel Omenya rendu ici par Jude Bilandankoumar.
Sur les 11 officiers de la 223e brigade déployée à Lusangi Café dans les territoires de Masisi aux environs de la cité des Sake, 8 parmi eux, dont les commandants en brigade, les colonels Mushengezi et Chamamba, viennent d'être condamnés à la peine de mort. La cour a par la même occasion prononcé leur destitution de l'armée. Parmi les 8 condamnés, 6 officiers étaient inculpés par les parquets militaires pour connivence avec les 2 principaux accusés, dont les colonels Mushengezi et Chamamba, commandants de brigade, et son adjoint Paluku Gabriel en charge des renseignements au sein de cette brigade. Concernant le colonel Mushengezi, la cour l'a reconnu coupable de lâcheté pour avoir inventé des motifs fallacieux de santé en présentant à la cour des faux documents médicaux. Après l'instruction, la cour a constaté qu'il s'agissait d'une malice montée par cet officier pour se soustraire du champ des opérations devant l'avancée des rebelles. C'est pourquoi la cour a également retenu l'infraction des faux et usage des faux contre le colonel Mushengezi. Notons que parmi les 11 officiers accusés, 3 ont été acquittés. Il s'agit des capitaines Katalay, Zeleka, Mujinga et Lukonji Panida.
En Ituri, pendant ces temps, les écoles et les hôpitaux ont repris leurs activités hier dans le territoire d'Arou. Seul le transport en commun et les commerces sont toujours suspendus. Cette mesure d'assouplissement de la ville morte a été prise après 48 heures de discussion entre le service de sécurité et la société civile. Le point de la situation avec vous, Isaac Remoyope.
Certains compromis ont été trouvés entre l'administration du territoire et la société civile sur ces revendications. Les autorités locales se sont engagées, entre autres, à renforcer les patrouilles pour garantir la sécurité de la population. Cela en collaboration avec les jeunes qui doivent chaque fois alerter les services de sécurité sur tout mouvement suspect dans les milieux. Les autorités ont également résolu de démanteler les barrières des tracasseries érigées par certains éléments des forces de l'ordre. Aussi de faire le suivi de certains travaux, notamment la réhabilitation du pont Aro, dont une partie des fonds décaissés par les gouvernement provincial serait détourné. La société civile exprime sa satisfaction en dépit de quelques points de divergence. L'un des acteurs.
Par rapport à la situation sécuritaire, il a promis de renforcer la brigade pour la sécurité. Patrouille sera renforcée parce que avant la population alertait, mais le service de la sécurité n'était pas tellement actif. Il y a un engagement que l'autorité a pris pour éradiquer ces barrières parce qu'il a dit que c'est illégal. Le gouvernement provincial avait décaissé plus de 40 000 dollars pour la réhabilitation des Saint-Paul. Il a autorisé que vous puissiez chercher des exécutifs. Et le mettre devant la justice.
D'autres questions sont restées pendantes, notamment le non-paiement des taxes de consommation sur les carburants par une entreprise minière dans la zone pour l'asphaltage de la voirie au centre commercial d'Arou. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, le ministre de la Communication et Médias parle de l'urgence de redoter les journalistes congolais de leur carte de presse. Patrick Muyaya Katembwe l'a dit vendredi à Paris où il était dans la suite du président Félix Tshisekedi. Le porte-parole du gouvernement congolais affirme que cette carte de presse permettra ainsi de nettoyer la corporation et d'éviter les dérapages observés dans la corporation. Il a dit en marge de la journée mondiale de la liberté de la presse. On l'écoute.
Il est urgent que nous puissions redoter les journalistes de leur carte de presse parce que ça nous permettra de faire plus ou moins déjà un nettoyage, de renforcer les structures de l'autorégulation parce que bien au-delà de la pratique ou de l'exercice des libertés de la presse, il y a quand même des cas de dérapages qui sont notés et nous pensons de ce point de vue qu'il y a urgence que les structures internes de la corporation puissent s'écharger notamment des cas où nous observons certains dérapages. Je dois noter aussi qu'il y a quand même encore du chemin à nous faire, notamment dans la compréhension de la loi, parce que nous avions tous discuté au sujet notamment de la dépénalisation pour lequel le président de la République avait parlé de la salubrité médiatique. Et à ces jours, nous avons plus ou moins commencé ces processus, mais ces processus doivent être consolidés. Et pour qu'on y arrive, il faut qu'on soit en mesure de nous remettre aussi en question dans la manière d'exercer les métiers, pour que nous puissions tirer les conséquences ensemble, depuis les débuts du travail qu'on a commencé, nous puissions jeter les perspectives d'une presse qui s'exercera dans un contexte où la liberté est comprise par tout le monde.
Pour la suite du journal sur Radio Kapi, allons maintenant au Kasaï oriental où la société civile de Kabeyakamwanga s'insurge contre le comportement de l'administrateur de ces territoires. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit l'administrateur du territoire en train de chicoter deux présumés voleurs des matériaux de construction d'une station-service. Des précisions avec le président de la société civile du Congo, Théophile Kazadi, a été joint par Esther Ndalafina.
La société civile du Congo, coordination du territoire de Kabeyakamwanga, condamne les actes de présumés détenus qui circulent dans les réseaux sociaux, actes commis par les autorités territoriales de Kabeyakamwanga. Elle rappelle que frapper un prisonnier détenu au cachot ou en prison est une infraction pénale en son article 67. Et même la constitution de la RDC stipule en son article 18 que tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. La déclaration universelle de l'homme dit en son article 5, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, ces actes perpétrés par les autorités du territoire de Kabeyakamwanga constituent une violation des droits de l'homme et même l'institution de notre République condamne cela. C'est ainsi que la Sosico des territoires de Kabeyakamwanga demande aux autorités de protéger et respecter les droits des prisonniers et quand un homme est déjà arrêté, il faut le référer à la justice pour que la justice puisse dire son droit.
En réaction à cette préoccupation, Willy Mwamba, administrateur du territoire de Kabeyakamwanga, rejette en bloc ces allégations et parle d'un montage de mauvais goût. Poursuite à Kolwezi de la 5e édition de Katanga Business Meeting, un événement annuel qui vise notamment la promotion de l'investissement et le développement économique de la RDC. Placé sous les thèmes « Investir dans les pôles industriels pour une nouvelle dynamique de croissance en RDC », ce rendez-vous économique est pour son initiateur un cadre d'échange d'expérience entre les opérateurs économiques et une occasion accordé pour les participants de nouer les relations d'affaires. Explication de Jean-Ganouka Bongo.
Plus d'une centaine d'exposants prennent part à cette 5e édition de Katanga Business Meeting. Au-delà des expositions, des conférences sont organisées dans les différents panels. Le tout s'articule autour de 9 secteurs à savoir mines et industries, énergie, infrastructures et construction, automobiles et équipements, IT et télécommunications, agriculture, banque et assurance, transport et logistique et services. Ce qui a fait dire à l'initiateur de ce rendez-vous économique que la RDC ne devrait pas compter seulement sur les secteurs miniers. Costa Moussonka.
On ne peut pas parler du Congo sans parler des mines, mais c'est aussi un point faible de notre pays, de notre économie. Le Congo devrait se développer et se développer de par plusieurs secteurs. Il y a effectivement, en dehors des mines, l'énergie, qui est un secteur très important. Il y a le secteur de l'agriculture, qui a un potentiel énorme, le secteur du tourisme. Donc il y a toute une série de secteurs qui peuvent se développer dans les décennies à venir, entre autres la logistique aussi, de par le rail, de par les routes. Donc il y a toute une série de pôles qui doivent vraiment mettre la vitesse supérieure pour que le pays puisse se développer.
La gouvernante du Lualaba a salué l'organisation de cette 5e édition dans son entité. Fifi Masuka a cependant émis le vœu de voir tout le monde faire le bilan des retombées des éditions antérieures. Notons que c'est ce samedi que cette 5e édition des Katanga Business Meeting fermera ses portes.
Économie encore, la première table ronde de la Commission nationale de jeunes entrepreneurs a eu lieu hier vendredi au siège de la FEC ici à Kinshasa. Objectif visé, évaluer la situation de la jeunesse congolaise à travers la formation, la compétitivité, le financement et le climat des affaires. Des précisions avec la présidente de cette commission au sein de la FEC. Les propos de Titia Mukuna ont été recueillis par Jocelyne Moussa Opondé.
On a pu réunir tous les jeunes de différentes associations d'entrepreneurs, différents entrepreneurs aussi à travers la République, pour qu'on puisse ensemble réfléchir à un plaidoyer et le porter. Car nous sommes persuadés dans notre commission à la FEC que c'est ensemble et unis que l'on va plus loin. Donc aujourd'hui, c'était très important pour nous de jouer notre rôle de fédération. La FEC fédère, elle unit et demain, nous allons pouvoir avoir le plaidoyer des jeunes entrepreneurs pour faire bouger les lignes. Il y a une phrase qu'on a beaucoup aimée lors de cette journée table ronde, c'était « pour faire bouger les lignes, il faut faire bouger les choses ». Et aujourd'hui, on est bien décidé à faire bouger les choses ensemble à la Commission nationale jeunes entrepreneurs de la FEC.
Actualité internationale.
Les Tchadiens s'apprêtent à se rendre aux urnes lundi prochain pour une présidentielle censée mettre fin, partiellement du moins, à une transition qui a duré 3 ans. Ces scrutins que beaucoup pensaient jouer d'avance se tient la semaine prochaine après 3 semaines d'une campagne électorale qui aura finalement suscité l'engouement mais aussi de vives tensions.
L'invité.
Notre invité, c'est le médecin responsable des activités de MSF à Roussayo, au Nord Kivu. Docteur Jean-Paul Kassoloa affirme que plus de 20 000 familles déplacées ayant fui la violence ont trouvé refuge dans un nouveau site informel à Roussayo 3 où il manque de tout. Il s'entretient avec Rosalie Zawadi.
Docteur Jean-Paul Kassoloa, bonjour.
Bonjour.
Depuis quand vous avez commencé les activités médicales ici dans ces sites?
En fait, depuis l'événement de la crise et l'afflux de déplacés au niveau des camps Roussayo 3, nous avons commencé par une évaluation qui a daté de plus ou moins 3 semaines, mais le début effectif des activités de la prise en charge a duré au moins 2 semaines jusqu'à aujourd'hui.
Et quels sont les services offerts aux déplacés au niveau de ces postes de santé avancés des MSFI?
Le service que nous offrons ici, c'est d'abord la prise en charge des enfants de 0 à 15 ans. Et cette prise en charge des enfants de 0 à 15 ans, ça comprend toutes les maladies. Ça comprend aussi la recherche active de la malnutrition des enfants de 6 mois à 59 mois au niveau des communautés. Nous avons aussi la prise en charge aussi de santé de la femme. Et pour la santé de la femme, ça concerne tout ce qui est les survivants avec violence sexuelle, tout ce qui est la planification familiale et tout ce qui est la santé de la reproduction de façon générale.
Il y a aussi un bloc pour la santé mentale, on a vu.
Effectivement, nous avons un bloc pour la santé mentale qui est juste derrière moi ici. Et ce bloc s'occupe justement des personnes en détresse mentale. Comme vous le savez, les personnes qui se déplacent, les survivants de violences sexuelles, ils ont souvent des problèmes aussi de santé mentale.
Et au niveau des enfants touchés par la malnutrition, combien d'enfants recevez-vous quotidiennement?
Avec les activités que nous avons lancées de la recherche active communautaire des enfants malnutris avec les femmes enceintes, les femmes allaitantes, minimum depuis cette semaine, nous commençons à recevoir entre 20 et 30 enfants malnutris.
Et de manière générale, combien de malades vous recevez ici, à part les enfants mal nourris?
De manière générale, par jour, nous sommes à plus ou moins entre 75 à 100 patients, ce qui fait un cumul de 2 semaines, on avait plutôt reçu 713 patients ici.
Et quelles sont les maladies les plus récurrentes qui touchent les déplacés de Roussayo 3?
Concernant les enfants, les plus récurrentes, c'est entre autres les infections respiratoires, la diarrhée, la malnutrition. Et nous avons aussi beaucoup de cas aussi de survivants avec violence sexuelle.
Alors, les sites ici de Roussayo 3, et là, depuis plus de 2 mois, vous commencez les interventions il y a 2 semaines. Avant, où se rendez se déplacer pour bénéficier des soins?
Le déplacé se rendait dans le centre de santé qui est à 2 à 3 km d'ici. Il y a d'autres aussi qui se rendaient dans les cliniques fixes aussi des MSF à Roussayo 1 et aussi dans d'autres cliniques à Roussayo 2 qui est supportée par toujours MSF et du Johnnetaire ainsi que Première Urgence Internationale. Au départ, quand nous avions commencé notre investigation, le camp des déplacés ne constituait qu'à 6 900 ménages. Et actuellement, nous sommes déjà à 23 600 ménages plus ou moins. Ça signifie qu'il y a une augmentation encore de la population. Et par jour, on a au moins 100 ménages, donc au moins 2 blocs qui se créent chaque jour depuis qu'on est là. Par rapport à l'origine de tous ces déplacés, il y a d'abord les nouveaux déplacés qui arrivent. Il y a aussi la saturation des autres cas, entre autres Roussayo 1, Roussayo 2, même Lushagala, Bouimba et Boulengo. La plupart étaient dans les hangars, ils étaient dans des maisons d'accueil. Et avec déjà l'installation des camps ici qui est de s'étendre, il y en a certains vraiment qui quittent les hangars pour venir s'installer ici. Et la présence de ces postes de santé aide effectivement à l'accessibilité aux soins de santé primaires.
Et à part les besoins sanitaires, quels sont les autres besoins auxquels font face les déplacés ici?
Effectivement, pour les soins de santé primaires, nous comblons vraiment les gaps ou bien les besoins, mais il y a encore d'autres besoins qui restent. Et les besoins, par exemple, en eau, où nous approvisionnons en eau, mais nous avons un besoin jusqu'à présent à 4,6 litres. Et le cas est en train de s'étendre. Autrement dit, les besoins en eau vont aussi augmenter. La même chose avec les abris, plus ou moins 100 ménages que le cas reçoit. Et la distribution que nous avons effectuée resterait toujours encore d'activité un peu continuelle. On a vraiment besoin que cette activité puisse continuer. On a besoin vraiment d'un plaidoyer par rapport à d'autres acteurs pour qu'on se donne main par la main pour suppléer à tous ces besoins. Il y en a de même aussi pour la nutrition. Je crois que la dernière distribution, ça date de plus ou moins 1 mois et c'était le gouvernement qui avait donné quelques kits. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore de distribution.
Docteur Jean-Paul Kassouloua, je rappelle que vous êtes responsable des activités santé MSF au site de Roussayo 3. Merci.
Merci.
C'était l'invité de Radio Okapi, interrogé à Goma par Rosalie Zawadi. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté.